Emmanuel Bove est né à Paris en 1898. Il y est mort en 1945 à l'âge de 47 ans. À 23 ans, il écrit son premier roman, Mes amis. L'influence d'Emmanuel Bove est profonde et durable. Certains ont vu dans son œuvre une saisissante prémonition de ce qu'on appellera le nouveau roman.
Armand, d'Emmanuel Bove. Texte dit par Olivier Broche, 7e épisode.
1925. Armand s'est sorti de la misère grâce à la générosité de sa maîtresse, Jeanne, chez laquelle il vit depuis un an. C'est alors qu'il retrouve par hasard Lucien, un ami de régiment et vieux compagnon d'infortune. C'est chez Lucien qu'il rencontre Marguerite, sa sœur, jeune fille maladroite, craintive et candide. Un soir, sans vraiment savoir pourquoi, Armand rend visite à Marguerite dans sa chambre d'hôtel miteuse. Il obtient d'elle un baiser furtif. Le lendemain, la crainte que Lucien ne soit au courant de cet événement et ne s'apprête à le trahir aux yeux de sa maîtresse bienfaitrice pousse Armand à se rendre chez Lucien au plus vite.
Lorsque nous eûmes déjeuné, je sortis. J'avais hâte de revoir Lucien pour lui faire des reproches sur sa conduite et surtout pour calmer une appréhension qui depuis la veille ne me quittait pas. Il pleuvait toujours. Les chapeaux des passants, bien qu'ils fussent de feutre, ruisselaient. À cause du souvenir de mes jouets mécaniques que l'eau abîmait, je m'étonnais, une seconde, que la pluie ne fît aucun mal aux automobiles. Je m'aperçus que j'avais emporté deux mouchoirs. Je faillis jeter l'un d'eux, tant quelque chose d'inutile sur moi mais désagréable. Soudain, je ressentis une douleur haleine, aussi brève qu'un élancement. Je continuai à marcher, le cœur serré, craignant que la même douleur ne revînt, qu'elle ne se précipitât par la suite, qu'elle ne fût les symptômes d'une maladie grave. Mais rien, c'était fini. Quelques minutes encore, je pensais à elle, puis, comme j'arrivais devant la maison de Lucien, je l'oubliais. Je fus tout de suite frappé par l'expression mauvaise qu'il eut à ma vue. Il ne me pria pas d'entrer. Sans me jeter un coup d'œil, sans prononcer une parole, il se rassit et regarda le livre qui se trouvait sur la table. Je refermai la porte. Au bruit qu'elle fit, il leva la tête pour voir si j'étais entré ou reparti. Puis, tournant une page comme s'il avait fini de la lire juste au moment où j'avais poussé la porte, il se plongea dans la lecture. J'avançais vers lui pour lui tendre la main lorsqu'il se dressa d'un bond et, comme si j'eusse été plus grand que lui, s'éloigna à reculons. Sans l'ampleur de mes vêtements, il eût vu mon cœur battre. Mes lèvres étaient sèches. J'aurais souffert d'un mal physique que je ne l'eusse plus ressenti. Qu'as-tu, Lucien ? Il tenait son livre à la main, s'efforçant par nervosité de le rouler. Je cherchais dans mes souvenirs ce que j'avais pu faire qui l'eût froissé à ce point. Me gardait-il rancune d'avoir pris parti pour sa sœur ? Cela n'était pas possible. Il y avait autre chose que je soupçonnais mal encore. Marguerite était peut-être venue ici dans la matinée. Elle avait parlé. Elle avait raconté que je m'étais rendu chez elle, le soir, que je l'avais embrassée. Je songeais alors à sa timidité qui rendait un tel acte impossible. Cela me remonta au point que je faillis moi-même tout dire à son frère. Je ne sais garder un secret en face d'un ami. Aussi éprouvais-je un certain contentement à voir Lucien si rogue, tant il m'eût été pénible qu'il fût affectueux au moment où je lui dissimulais quelque chose. Mais que me reproches-tu, Lucien ? Cette fois, il fixa son regard dans mes yeux avec une telle insistance que je me sentis coupable d'une faute beaucoup plus grave que je ne le supposais. Il était pâle. Sa main qui ne tenait rien tremblait. Son visage n'avait aucune expression. Ni douce, ni dure. C'était le visage d'un homme que je ne connaissais plus. Le corps lui-même qui ne change pas, dans ses habits qui m'étaient pourtant familiers, me sembla celui d'un étranger. Alors j'eus peur. J'eus peur des objets qu'il avait dans ses poches. J'eus peur qu'il ne sût que ce que j'avais fait n'eût qu'une gravité qui m'échappait. Il me sembla que je n'étais plus maître de ma vie, que cet homme allait en disposer. J'attendais avec anxiété qu'il parlât, tant savoir ce qu'il me reprochait m'eût soulagé. Il se tenait droit. Il avait jeté le livre sur la table, bien qu'il portât deux verres. Un instant, il m'apparut humble, simplement vexé. Je reprenais confiance lorsque de nouveau il eut l'air mauvais. L'idée de parler le premier, de dire que j'avais embrassé sa sœur pour que cet aveu atténue à ma faute, m'effleura. Je vis Jeanne. Elle n'avait pas de visage dans ma mémoire. Seuls ses cheveux, ses mains, sa poitrine passaient devant mes yeux. Elle dormait, les jambes, les bras repliés. Ainsi, elle semblait tout ignorer. Elle était calme. Ma vie allait être rompue. De nouveau, je serais seul comme avant, plus seul même. Et Lucien ne me quittait pas des yeux. Il avait une main dans la poche de son pantalon. Il s'approcha de moi, me menaça de l'index. Ses lèvres se séparèrent. « Brute !» Je tremblais. Je fis un pas en arrière. Mes mains étaient privées de sens comme si je n'eusse plus eu de doigts, comme si elles se fussent terminées en m'incisant ainsi que des branches. « Tu n'as pas honte, brute ?» Une rougeur subite, au milieu de ma pâleur, me brûla les pommettes. Je fixai mon regard sur lui. Pourtant, je voyais la fenêtre, la table, tout en même temps. « Tu as une femme qui est riche, qui fait tout pour toi et... » Ses lèvres modelaient chaque syllabe. Celles-ci résonnaient l'une après l'autre avec autant de netteté. Une force que je ne soupçonnais pas se dégageait de chacun de ses gestes. Son col le serrait. À certains moments, je voyais ses dents. Elles ne se touchaient pas comme si elles eussent été prêtes à mordre. Je balbutiai le premier mot qui me vint à l'esprit. Il n'avait aucun sens, mais c'était un mot. Sans doute, tout ce que je pouvais faire d'autre m'apparut inutile. « Tu es heureux, toi, et tu vas détourner une gamine. Tu vas chez elle le soir, tu profites de l'impression que tu fais sur elle. C'est honteux, mais cela ne se passera pas comme tu le penses. » Il frappa la table avec force, de manière à se faire mal pour que la douleur le rendît plus violente encore. « Va-t'en, sors d'ici, abusé d'une enfant. » Il se tut un moment pour donner à son visage une expression de dégoût. « Tu croyais que tu n'avais qu'à vouloir, n'est-ce pas ? Réponds-moi, allons, réponds. Tu as profité de notre situation. On peut être généreux quand on agit comme toi, mais cela ne te portera pas bonheur. Il faut être plus franc que cela dans la vie. Entends-tu ? » Lucien ne se maîtrisait plus. Sa voix s'était cassée. Il allait et venait au travers de la pièce, passant près des meubles pour les pousser du pied, les manquant parfois. J'avais le sang à la tête. Une seule pensée ne me quittait plus. Jeanne allait-elle apprendre cette histoire ? Je me fis humble. « Lucien, écoute-moi. »«
Tais-toi. »«
Écoute-moi. Je te demande pardon. Tu ne sais pas comment cela s'est passé. »«
Je le sais. Marguerite m'a tout raconté. »«
J'ai eu un moment de faiblesse. Cela aurait pu t'arriver, Lucien. Je te jure que jamais plus je ne la reverrai. » Je parlais sans savoir ce que je disais, cherchant plus à le calmer par le son de ma voix que par le sens de mes paroles. « Pardonne-moi, Lucien. Après, on redeviendra ce que l'on était l'un pour l'autre. » Ta sœur est gentille, mais ma place n'est pas près d'elle, ainsi que tu me l'as dit. Une rafale de pluie tomba sur les toits de zinc comme si un arbre eût été secoué. Le ciel s'éclairait, une ligne de gouttes tremblait sous la barre d'appui. Lucien, la bouche fermée, les yeux mi-clos, devait penser à toutes les injures qu'il venait de prononcer. Je crus deviner, à son expression lasse, qu'il regrettait de s'être emporté à ce point. Je me taisais, craignant d'éloigner par un mot l'apaisement qui naissait en lui. Le silence, après la scène de tout à l'heure, n'était gênant que pour moi. Lucien, lui, suivait des idées dont la moindre association malheureuse risquait de le remettre en colère. J'essayais de les suivre avec lui. Je supposais qu'il pensait à sa sœur, puis, parce qu'il me regarda, à moi. Je me fis petit, humble, pour qu'aucun contraste ne déclenchât un nouvel accès de colère. Je voulus parler. Je guettais le moment propice comme si, à plusieurs, nous eussions dû prononcer un mot ensemble. « Lucien, je te le jure, je ne la reverrai plus. » Ces quelques mots ne le détournèrent pas de ses réflexions. Il restait plongé dans une méditation que cette fois je ne pus suivre, n'en connaissant pas le point de départ. Pour la première fois depuis notre entrevue, il pensa à lui-même, se mordit les lèvres, caressa ses cheveux. « Lucien ?
Quoi ?
Tu m'en veux toujours ?»
Une lueur brilla dans l'un de ses yeux, dans celui qui était le plus près de la fenêtre. Ses narines se contractèrent comme s'il se fût efforcé de surprendre une odeur.
Semblable à ces gens qui possèdent la faculté de commander à leurs oreilles, à certains muscles de leurs jambes ou de leurs bras, il était maître de ses narines.
J'avais parlé trop vite. Il n'était pas prêt pour une réconciliation. Une nouvelle frayeur m'envahit. Allait-il recommencer ? Allait-il me menacer de me frapper, m'injurier de nouveau ? On eût dit que je venais de le lâcher. Je ne savais encore vers quel côté il pencherait. Puis ses mains s'ouvrirent. Il leva les yeux. J'étais sauvé. Comme si l'on s'était baigné dans la chambre, les carreaux étaient couverts de buée. Je me maîtrisais pour ne pas courir à lui, pour ne pas lui serrer longuement la main. Bien que la joie m'illuminât intérieurement, je veillais à paraître le même. Je remarquai seulement alors que le poêle était allumé. J'entendis pour la première fois un autobus qui passait dans une rue voisine. Ce fut d'un pas assuré que je me rendis vers la porte. Avant de l'ouvrir, je me retournai. Après un instant de silence, la tête haute, je lui dis d'une voix nette « Au revoir, Lucien !» La pluie avait cessé. Le long des maisons, des gouttes tombaient encore, mais ce n'était plus du ciel qu'elles venaient. Les passants marchaient librement au milieu des trottoirs. Entre deux nuages que le vent poussait avec la même force, il y avait un peu de ciel, bleu et frais. Maintenant, je regrettais d'être parti si vite. De ne plus savoir ce que pensait Lucien m'inquiétait. Je craignais qu'en mon absence, il ne se remît en colère et n'alla tout raconter à Jeanne. Au souvenir de l'attitude qu'il avait eue avant que je le quittasse, je repris confiance. Il n'oserait jamais se rendre chez moi, même si un instant, au plus fort de sa colère, il avait songé à le faire. Je m'assis dans un café pour attendre l'heure du dîner. J'étais malgré tout trop ému pour revoir Jeanne en ce moment. Au fond de moi-même, je redoutais de me trouver en sa présence. Quand je suis troublé, je ne sais pas encore le dissimuler. Elle m'eût posé des questions. Il valait mieux que je passasse la fin de l'après-midi seul à réfléchir. Quand j'entrais, Jeanne était assise dans le salon, comme une visiteuse, sans s'être entourée d'objets propres à occuper une heure de loisir. Cela ne faisait que de me déplaire quand elle s'asseyait ainsi, car c'était chez elle le signe d'une lassitude que je ne peux supporter autour de moi. Cette fois, de la voir inactive me causa une appréhension. L'air qui passait d'une pièce à l'autre, les lumières de la façade voisine que j'apercevais par les fenêtres aggravèrent mon trouble. Les portes et les volets étaient ouverts. Que Jeanne ne les eût pas fermés, pour que le salon fût plus intime, pour que la chaleur ne s'en allât pas, elle d'ordinaire si soucieuse de confort, m'étonna. Lorsque j'arrivais, elle avait coutume de m'embrasser, de sentir mon haleine, dont elle confondait les odeurs, pour me gronder si j'avais bu, de toucher mon visage sous les yeux, là où personne sauf elle pouvait le faire, de mettre négligemment ses mains dans les poches les plus ouvertes de mes vêtements, de glisser deux doigts dans mon gousset, comme si j'eusse été chargé de paquets, pour en tirer de la monnaie tant bien que mal, parce que les femmes ne savent pas mettre les doigts dans un gousset. Ce soir-là, elle ne bougea pas. Je n'osais m'approcher d'elle. Il était 8 heures. J'avais quitté Lucien à la fin de l'après-midi. Il m'a paru qu'il avait pu venir ici dans l'intervalle et tout raconter. Je perdis la tête. J'étais haletant au point de ne pouvoir respirer que par la bouche. Sur l'épaisseur de mes semelles, j'avais l'impression de me tenir en équilibre. Jeanne avait gardé ses gants près d'elle. Son chapeau, que d'habitude elle rangeait avant toute chose, se trouvait sur la table, au bord, parce qu'il avait roulé avant de s'arrêter. Elle portait une longue jaquette ainsi que pour sortir. La fourrure du col dissimulait sa nuque et son menton. Elle l'avait fermée comme quand elle baissait la tête et souriait pour ressembler à une image. Sans dire un mot, je me rendis dans la salle à manger. Là, à l'heure où l'on ne prenait aucun repas, je me sentais à l'abri. La salamandre était éteinte, les poignées de porcelaine encore tièdes. Un sucrier, à cause de l'idée de dessert qu'il évoquait, me fit remarquer que la table n'était pas mise. Pour qu'aucun bruit ne traversât la cloison me séparant du salon, j'ouvris le battant du buffet qui ne criait pas. Aucune coupure fraîche n'avait été faite dans les restes. Jeanne n'avait pas dîné. Je passai dans la chambre à coucher avec la crainte que l'armoire à glace ne fût fermée à clé. La porte en était entr'ouverte. Un instant, je repris confiance. Mais la peur ne tarda pas à m'envahir de nouveau. Les lettres n'étaient plus sur la cheminée. Jeanne les avait cachées. Elle savait. Elle ne voulait plus que je participasse à sa vie. Pour y trouver une consolation, elle les avait relues. Je m'assis, non par fatigue, mais dans l'espoir que, comme pour un mal physique, un changement de position me soulagerait. Il n'en fut rien. J'avais des battements de cœur. Je les sentais dans toute ma poitrine, à peine plus fort à gauche, montant, lorsque la respiration me manquait, jusque vers la gorge et la nuque. Une ampoule, au mur, éclairait le lit. Un jour, en mon absence, Jeanne l'avait entourée d'étoffes pâles. À mon retour, je m'étais attendri. Je me levai. Je me souvenais de nos premiers mots à cette clarté. Comme elle était froide à présent sur le couvre-lit, sans les lettres. Avec obstination, je me mis à les chercher. Il me semblait que mon bonheur dépendit d'elle. Je soulevai les oreillers, le matelas sous lequel Jeanne, sachant que je connaissais sa cachette, avait pu les glisser en pensant qu'à cause de cela, je n'eusse pas eu l'idée de regarder là. Puis en tremblant, je m'appliquai à refaire le lit pour qu'elle ne s'aperçût de rien, mais de quelque façon que je disposasse le couvre-pied, de nouveaux plis demeuraient. Les tiroirs étaient fermés alors que d'habitude Jeanne en laissait deux ou trois ouverts à cause de son désir de paraître distraite et un peu désordonnée. Les lettres se trouvaient dans l'un d'eux. Un profond bien-être m'inonda. Mon cœur continua de battre comme avant, mais sans m'oppresser. Je respirai. Lucien n'était pas venu. Il n'avait rien raconté. Il était incapable de commettre une action aussi basse. Je m'étais trompé sur lui, sur Jeanne. Le monde était meilleur que je ne le pensais. J'en arrivais à me croire persécuté, à avoir les signes d'une machination en le moindre objet déplacé. Une peur maladive de toute chose affaiblissait mon jugement. Convertissait un simple mouvement d'humeur de Lucien en un accès de colère, un peu de fatigue chez Jeanne en projet dirigé contre moi. Je fis du bruit. Comme un enfant, pour en éprouver l'élasticité, je m'assis sur le lit bien que je l'eusse soigneusement refait, puis, confiant, je retournai au salon. À cause d'un jeu de glace, la pièce formait une courte galerie qu'éclairaient trois fois les clochettes du même lustre. Mais la cheminée, dans la glace de laquelle le salon se reflétait, gâtait l'illusion de grandeur. Jeanne était assise à la même place. Ses doigts avaient bougé. Parce qu'ils étaient plus bas, comme le soir à l'extrémité des branches, elle me parut lasse. La peur vers laquelle j'inclinais recommença de m'envahir. Partout, je remarquais des détails inhabituels. Nulle part, il n'y avait le signe d'une occupation quotidienne. Les chaises étaient trop éloignées les unes des autres pour qu'on les eût touchées. Je parcourus le salon comme si je cherchais un objet afin de donner une raison à mes allées et venues dans l'appartement. Enfin, je m'assis en face de Jeanne. Ne pas parler était comme un aveu. Pourtant, je n'osais prononcer un mot. Elle baissait les yeux. Un de ses doigts remua, puis reprit sa place entre les autres doigts. À sa respiration, à ses mains, à son visage, à ses vêtements même, j'essayais de deviner ce qu'elle méditait. Je n'y parvenais pas. Que tout son être fût présent devant moi, sans qu'un détail en trahît la pensée, m'irrita. Avec mollesse, comme si pour me punir d'un oubli je fusse frappé, je me traitais d'imbécile. Je déplorais mon manque d'intuition lorsqu'il m'advint de me demander ce que j'eusse fait si cela avait été Jeanne qui m'eût trompé. Je me serais gardé de lui annoncer tout de suite que je savais. J'aurais, comme elle, attendu le plus longtemps possible. Cette constatation m'accabla. Je tentais de m'accrocher à la différence de nos caractères. Jeanne était beaucoup plus emportée que moi. Si elle avait su quelque chose, elle n'eût pu me le dissimuler. Mais cette supposition, au lieu de me ranimer, me laissa aussi abattue tant elle était fragile. Jeanne ne bougeait toujours pas. Je compris que cette immobilité qui finissait par me sembler naturelle était la marque d'une grande douleur. Quelque chose s'était passé en mon absence. J'étais perdu. J'aurais voulu revoir Lucien sur le champ, lui demander s'il était venu. Je rageais de ne pas lui avoir posé avant de le quitter une question qui m'eût rassuré jusqu'à présent. Je doutais de l'apaisement qui avait suivi sa colère. Il était rancunier. Il avait dit que cela ne se passerait pas comme cela. Je n'en pouvais plus. Autour de moi, tout était froid, lointain. Je me levais avec la pensée de me rendre dans notre chambre, de me coucher, de faire semblant de dormir pour ne rien apprendre ce soir. Je sortis sans bruit, faisant des gestes exagérés afin d'être silencieux. Dans l'antichambre, je tournai le commutateur. Soudain, alors que je me tenais droit à la faible lumière du couloir, hésitant encore à faire un autre pas, j'entendis la voix de Jeanne. « Armand, j'ai à te parler. » Jusqu'à présent, je n'avais redouté qu'une seule chose, qu'elle n'eût appris par Lucien que j'avais embrassé Marguerite. Maintenant, c'était d'un châtiment que j'avais peur. Pendant un instant, j'eus le sentiment qu'elle avait des droits sur moi, qu'elle pouvait se venger, que le monde lui donnerait raison. Je revins dans le salon non sans avoir, par un souci d'être moi-même, fermé la lumière de l'antichambre. Debout, face à moi, complètement changée, Jeanne m'examina des pieds à la tête, n'osant être dédaigneuse de peur que cela n'eût accentué la hauteur de sa taille. Je sentis que j'étais un étranger pour elle, que plus rien ici ne m'appartenait. Divers objets qui sont à moi passèrent devant mes yeux. Il me sembla que l'on me poussait dehors, que je n'avais pas le temps de les prendre. Bien qu'en marchant je m'approchasse d'elle, je la voyais toujours de la même grandeur, loin de moi, le dos à la fenêtre. J'attendais qu'elle expliquât son attitude. Elle me regardait dans les yeux. Elle entr'ouvrit la bouche avant de proférer un mot pour que l'effort de remuer ses lèvres ne s'ajoutât pas à celui de parler. « C'est vrai ce que m'a dit Lucien ?» Je ne répondis pas. Peut-être faisait-elle allusion à quelque chose d'autre.
C'était Armand d'Emmanuel Bove. Texte dit par Olivier Broche, 7e épisode. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Pierre Henry, Cécile Lafont, Bernard Laniel, Claire Levasseur, Étienne Vallès. Armand d'Emmanuel Bove est publié aux éditions Flammarion.